Jules Vallès, Le testament d'un blagueur. Un matin, on vint me dire dans un café, vous savez, le blagueur s'est tué. C'était un blagueur de la grande espèce, de ceux que le succès n'éblouit point et que le péril n'effraie pas. On l'appelait blagueur parce qu'il riait de tout et ne ménageait rien. Comme on avait peur de lui, on avait essayé d'appliquer à son ironie un mot qui en diminua la hauteur et put en voiler la portée. Il l'avait bien compris, mais il n'en avait ressenti qu'un peu plus d'orgueil et de mépris. Orgueil de lui-même, mépris des autres. Je ne fus ni bien surpris, ni trop affligé de la nouvelle. S'il avait chassé loin de lui la vie, c'est qu'il en avait épuisé la curiosité. J'étais sûre qu'il n'avait pas succombé à un accès de découragement, ni plié sous le poids bête d'un malheur. Je me rappelais, en me dirigeant vers la maison où était déposé son cadavre, qu'il m'avait plus d'une fois réveillé le soir pour me prier à travers la porte de lui garder jusqu'au lendemain un pistolet chargé. Il voulait toujours avoir son arme pour se défendre. Mais il en avait peur dans les nuits qui suivaient les journées fastes, quand la fatalité lui avait imposé une humiliation ou escamoté quelque triomphe. Pourquoi, cette fois, avait-il posé la gueule du canon sur son front et lâché la détente? Depuis longtemps déjà, il avait échappé à la misère. Il était riche, possédait une santé de fer, et il semblait que pas une émotion ne pouvait désormais égratigner son cœur de bronze. Nous eûmes l'explication de son suicide quand nous eûmes lu son testament. Il avait déposé là ses souvenirs par tranches et miettes dans quelques bouts de papier froissé. Je les ai déchiffrés comme j'ai pu. Ce sont des pages curieuses, comme toutes les pages des mémoires où l'homme a noté les minutes décisives de sa vie. Minutes joyeuses, minutes tristes, moments solennels ou bizarres. Ce sont surtout les moments bizarres que celui-là avait notés. Et c'est dans un journal de caricatures et de pamphlets qu'il faut encadrer le testament de cet aimable suicidé. Ce testament était ainsi conçu. Aux petites nièces de Mademoiselle Ballandreau, je lègue tout ce que j'ai, à condition que elles serviront à mon oncle Joseph Pitou une rente suffisante pour entretenir ses goûts d'ivrognerie. J'ai 6 ans et le derrière tout pelé. Ma mère dit qu'il ne faut pas gâter les enfants et elle me fouette tous les matins. Quand elle n'a pas le temps le matin, c'est pour midi, rarement plus tard que 4 heures. Mademoiselle Ballandreau m'y met du suif. C'est une bonne vieille fille qui n'a qu'une dent. Elle demeure au-dessous de nous. D'abord, elle était contente. Comme elle n'a pas d'horloge, ça lui donnait l'heure. Vlin, vlan, zon, zon. Voilà le petit chose qu'on fouette. Il est temps de faire mon café au lait. Mais un jour que j'avais levé mon pan parce que ça me cuisait trop et que je prenais l'air entre deux portes, elle m'a vue. Mon derrière lui a fait pitié. Elle voulait d'abord le montrer à tout le monde, ameuter les voisins autour. Mais elle a pensé que ce n'était pas le moyen de le sauver et elle a préféré le graisser avec une chandelle des 6. Elle a trouvé un autre moyen. Quelquefois, elle dit à ma mère, quand elle l'entend dire « Ernest, je vas te fouetter ». Madame Pitou, ne vous donnez pas la peine, je vais faire ça pour vous. Vous êtes trop bonne. Mademoiselle Ballandreau m'emmène. Mais au lieu de me fouetter, elle frappe dans ses mains. Moi, je crie. Ma mère remercie le soir Mademoiselle Ballandreau. À votre service, répond la brave fille en me glissant un bonbon en cachette. Mademoiselle Balandreau m'a sauvée de la coxalgie. Mon Dieu, faites que je ne sois pas infirme. 1841, petit collège. J'ai 8 ans. On m'a mis au collège pensionnaire. Le costume est un habit noir avec un chapeau haut de forme. J'ai l'air d'un poêle. Je me traîne écrasée et invisible derrière les divisions les jours de promenade. On ne voit que le bout de mon petit nez, toujours un peu morveux, parce que mes manches m'empêchent de me moucher. Dans la ville, on m'accuse de malpropreté. Notre professeur s'appelle Sommer. Il a un gros chien noir. Quand il dort, son chien mord ceux qui se lèvent et qui font du bruit. Je suis toujours battue parce que je bois toujours de l'encre. Je ne peux pas m'en empêcher. J'ai le prix d'excellence à Pâques. Le proviseur m'embrasse. Il s'enlaille. Je lui dis, je suis chassée. Je rends à mon père son chapeau et son habit noir, mon derrière à ma mère, elle s'en empare. Mademoiselle Balandreau, le soir, est obligée de l'emmailloter. Dans ma culotte jaune. La croûte tombe, je rentre au collège externe. Je suis vêtue de peau de vache. Comme on dit que j'use beaucoup, on m'a acheté dans la campagne une étoffe jaune et à poils dont je suis enveloppée. J'ai l'air d'un ambassadeur Lapon. Les étrangers me saluent, les savants me regardent. Je suis de nouveau menacée d'être infirme. L'étoffe dans laquelle on a taillé mon pantalon se sèche et se racornit, m'écorche et m'ensanglante. Et je suis obligée d'employer les chandelles du 6 qui restaient sur la planche à assouplir le drap. Mais un jour, on me mène au bain. Je fais horreur à mes parents. On gratte le suif avec un fouet et l'on me condamne à reprendre ma culotte de déjanire. Désespérée, je vole le pantalon de soirée de mon père que je mets comme un caleçon, un pantalon de Casimir, velouté et doux. Qu'ai-je fait? Je vais non plus vivre, mais me traîner. Tous les jeux de mon âge me sont interdits. Je ne puis jouer au bar, sauter, courir, me battre. Je rampe, seule, calomniée des uns, plaint par les autres. Inutile. Et il m'est donné, au sein même de ma ville natale, à 12 ans, de connaître les douleurs sourdes de l'exil. On découvre un jour la supercherie. C'est dans une promenade. J'allais m'accroupir au coin d'un mur. Ma mère voit de loin tomber la culotte jaune et aperçoit mes jambes noires. Mon fils est-il devenu nègre? Elle s'approche, inquiète, contenant mal les battements de son cœur. Tout se sait. Scène horrible. Mes parents se consultent. Il est décidé que j'entrerai le lendemain en apprentissage. Au cachot. Je voulais être savetier. Il y en a un au coin de la rue Saint-Louis, le père Bachon, qu'on entend toujours chanter et rire, et je m'amuserais mieux dans son échoppe qu'au collège. Il laisse faire à son fils ce qu'il veut, quand on a fermé la boutique, et le petit Bachon a toujours de beaux habits le dimanche. J'ai dit à ma mère que je ne demandais pas mieux que d'entrer en apprentissage chez le vieux Niaf. Quand je saurai mon état, j'achèterai avec l'argent de mes ressemelages des culottes comme je les aime et qui ne m'écorcheront pas les cuisses. Puis, si le patron veut me battre, comme il n'est pas mon père, je lui donnerai des coups de tranchée. Mon père, qui a entendu, a pris une cravache et m'a fait bien mal. Puis il m'a conduit en pleine rue, en me montrant à tout le monde jusqu'au collège. C'était au moment de la classe. Tous les élèves me voyaient. Ils me donnaient des soufflets et des coups de pied. Ils m'avaient déjà, à la maison, donné des coups de règle sur les mains. Elles étaient toutes rouges et je ne pouvais pas fermer les doigts. Ils m'appelaient tout le long du chemin « enfant ingrat, mauvais fils ». On m'a enfermé dans le cachot qui est près de la salle de dessin. Je resterai là jusqu'à ce que je sois corrigée, jusqu'à ce que ma mère soit guérie. Il paraît qu'en me donnant un dernier coup, quand je sortais, ma mère s'est foulée un muscle et l'on a dit au proviseur que c'était moi qui l'avais battue. Ils ont menti. Je suis restée une semaine, nuit et jour, dans ce cachot plein de rats. On m'en a retiré, tout pâle. La pauvre mademoiselle Balandreau pleurait comme une fontaine et se mordait la lèvre avec sa dent pour étouffer ses sanglots. Ma mère est meilleure pour moi. On ne me bat plus qu'une fois par semaine, c'est généralement le dimanche. On trouve que je n'ai pas l'air assez content quand on me dit « Ernest, habille-toi, nous allons faire un tour de promenade ». Je n'aime pas faire un tour de promenade. Je suis très mal mis. Ma mère me fait des vestes avec ses caracos, des pantalons blancs en été avec les caleçons de mon père. J'ai des casquettes de soie voyantes. On sort pour me voir. Les femmes braquent leurs lorgnettes sur moi. Je suis l'objet d'une curiosité malsaine que ma mère prend pour de l'admiration. Un jour, un homme qui voyageait m'a pris pour une curiosité du pays et, m'ayant vu de loin, est accouru au galop de son cheval. Son étonnement a été extrême quand il a reconnu que j'étais vivant. Il a mis pied à terre et, s'adressant à ma mère, lui a demandé respectueusement si elle voulait bien lui indiquer l'adresse du tailleur qui avait combiné ce vêtement. « C'est moi ? » a-t-elle répondu, rougissant d'orgueil. Le cavalier est reparti et on ne l'a plus revu. Ma mère m'a parlé souvent de cette apparition, de cet homme qui se détournait de son chemin pour savoir qui m'habillait. Oh, cet homme, quelque chose me dit qu'il se moquait de ma famille. On me force donc à sortir et je grogne tout le long du chemin, parce que ça ne m'amuse pas de me fatiguer pour rien, de marcher à 10 pas devant eux, et de regarder les champs pleins d'herbes et de fleurs, sans pouvoir y courir et m'y rouler, et ils me défendent de m'écarter. Je ne m'échappe que pour raison de santé. Encore me surveille-t-on, et je ne puis voler une minute. Ernest, Ernest, tu dois avoir fini. Tout n'est dans ma vie que routine pesante ou précipitation douloureuse. Au bal, je suis laid. Il paraît que je suis très laid. J'en souffre beaucoup. Quand je me trouve dans un endroit où il y a des demoiselles, je dis toujours que j'ai mal aux dents ou un clou sur le nez pour pouvoir mettre mon mouchoir sur ma figure, pour dérober ce que je puis au regard des femmes. Un hasard douloureux n'a pas peu contribué à accroître ma timidité. On m'avait invité pendant le carnaval à un bal d'enfants. Ma mère m'a habillée en charbonnier. Au moment de me conduire, elle a été forcée d'aller ailleurs. Mais elle m'a emmenée jusqu'à la porte de M. Puiségon, chez qui se donnait le bal. Je ne savais pas bien le chemin et je me suis perdue dans le jardin. J'ai appelé. Une servante est venue et m'a dit « C'est vous le petit Huchefol qui venait pour aider à la cuisine ?» Je n'ai pas osé dire que non et on m'a fait laver la vaisselle toute la nuit. Quand ma mère est venue me chercher le matin, j'achevais de rincer les verres. On lui a dit qu'on ne m'avait pas vue. On a fouillé partout. Je suis entrée dans la salle du bal pour me jeter dans ses bras. Mais, à ma vue, les petites filles ont poussé des cris. Des femmes se sont évanouies. L'apparition de ce nain horrible, noir et gluant, qui roulait à travers ses robes fraîches, a inspiré le dégoût à tout le monde. Ma mère ne voulait plus me reconnaître. Je commençais à croire que j'étais orphelin. Je n'avais qu'à l'entraîner et à lui montrer, dans un coin, mon derrière couturé et violacé, pour qu'elle criât à l'instant « C'est mon fils !» Un reste de pudeur me retenait. Je me contentais de faire des signes et je parvins à me faire comprendre. On m'emporta dans un torchon. Ma mère m'a dit que si j'avais des prix, j'irais en vacances chez la Tatan Marion. Tatan Marion, Tante Marie, c'est la mère de la Polonie. Ils ont appelé comme cela leur fille, ces paysans. Chère cousine, avec des yeux bleus de pervenche, de longs cheveux châtains, le sourire tendre et la voix traînante, un cou blanc comme du lait que coupe de sa noirceur luisante un velours qui tient une croix d'or, des épaules de neige, devenant rose dès qu'elle rit, rouge dès qu'on la regarde, grande et lente. Je la dévore des yeux, je ne sais pas pourquoi, quand elle s'habille. Les fois où elle couche dans la petite chambre pour être au marché la première, avec ses blocs de beurre fermes et blancs, comme les moules de chair qu'elle a sur la poitrine. On s'arrache le beurre de la Polonie. Moi, je me sens tout chose en la regardant retenir avec ses dents le menton baissé ou relevé d'une main sur son épaule ronde, sa chemise qui dégringole. Elle vient quelquefois m'agacer le cou ou me menacer les côtes de ses doigts longs. Elle rit, me caresse et m'embrasse. Je la serre en me défendant et je l'ai mordue une fois. Je ne voulais pas la mordre, mais je ne pouvais pas m'empêcher de serrer les dents, comme sa chair avait une odeur de framboise. Elle m'a crié « Petit méchant !» en me donnant une tape sur la joue un peu fort. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Et j'ai soupiré en lui répondant. Je me sentais la poitrine serrée et l'œil plus doux. Elle m'a quittée pour se rejeter dans son lit en disant qu'elle avait attrapé froid. Elle ressemble par derrière au poulain blanc que monte le petit du préfet. J'ai pensé à elle tout le temps en faisant mes devoirs. Je la verrai tous les jours, la Polonie, maintenant, si j'ai des prix. Mardi après la classe. J'ai envie de le dire à Julio. Si je le contais à mon père, il ne comprendrait pas. Non, c'est à Monsieur Montagne que je l'avouerai. Les hommes ne font pas ça, et j'ai déjà 12 ans. Qu'est-ce qui m'a donc pris? Oh, ma cousine Polonie, c'est vous qui en êtes cause. Je voulais être premier, pour avoir le prix et aller à Senillac. On composait en récitation. Rulio ne faisait pas de faute. Je l'ai tiré par derrière pendant qu'il récitait pour le troubler. Il a eu 2 hésitations. Comment les hommes appellent-ils ce que j'ai fait? C'est une trahison. Je suis donc lâche. J'ai envie de me tuer. J'ai trouvé un moyen de me punir. J'ai 7 points d'avance sur Julio pour le thème. À la composition des prix, je ferai des fautes exprès. Un gros barbarisme avec un solécisme s'il le faut, et il aura le prix. Composition des prix. Je viens de composer. Il y avait dans le thème « Ô toi qui veilles sur nous, Dieu puissant ». J'ai traduit « au tectum » et j'ai mis « des » au vocatif. Je savais bien qu'il faut « au tout » et que « deus » ne change pas avant le génitif. Mais j'ai le prix de récitation sans l'avoir mérité. J'ai volé Rulio et je lui donne mon prix de thème en échange. Il n'a pas à se plaindre, je crois. Le censeur a dit dans son discours l'autre année que le thème était la... le... Comment? comment a-t-il dit ça ? Était le critérium de l'élève. Rouliot, j'ai bien mal agi avec toi, mais on dira que tu as un critérium, et on ne saura pas que c'est moi qui te l'ai donné. 11 août. Je n'ai eu que deux prix. Prix de récitation, prix de version. J'ai eu le second accessite de thème. Mon père est allé au renseignement. Que s'était-il passé? Il était sûr de son Ernest pour le thème. Il y avait, là-dessous, sans doute quelque injustice. On l'a entendu murmurer. C'est parce que Rouliot est neveu d'un curé de Paris et qu'Ernest Pitou, mon fils, est boursier. On donne le prix au neveu du calotin. Interne, pendant les vacances. Oui, ils ont obtenu du proviseur que je serai interne pendant les vacances pour rien. C'est le proviseur qui a manigancé ça avec l'économe. Cet économe a un enfant de 5 ans bossu dont on m'a nommé le précepteur. Tu dois être fier, dit ma mère. Précepteur, à ton âge. Fier de quoi? Avoir à apprendre à lire à un enfant qui a une boule dans le dos. Fier ou non, j'ai fait mon paquet. On a retiré du fond d'une armoire mes hardes. L'opération était interrompue de soupirs. Des mots solennels tombaient avec des boutons décousus, s'échappaient comme les pans de mes chemises mûres. Oh, les enfants! Voilà la cravate des dimanches. Tuez-vous donc pour eux. Il faudra mettre une pièce dans l'entrejambe. Tu feras mourir ton père de chagrin. Passe-moi ta culotte bleue. Voilà comment il vous récompense. C'est ça ta redingote neuve. Ma redingote neuve. Oh mon Dieu, Deus et non Dei. Mon Dieu, qui voyez tout, vous savez ce qu'était cette redingote et si elle était neuve. Il l'avait fait un dimanche qu'il tenait. La carcasse avec un tronc d'habit noir. Les manches avec les jambes d'un pantalon. Oui, les jambes d'un pantalon. Il y a encore la marque des sous-pieds. Lycée, cours des moyens. On s'est moqué de moi quand je suis entrée dans la cour. J'avais la redingote à jambes. Il y avait 5 ou 6 élèves. 3 créoles, un petit, qu'on appelle le bâtard. Personne ne vient jamais le voir. On dit que sa mère est actrice à Paris. Il y a encore Truchelu, qui potasse pour la navale. Et le Breteau, que sa famille ne veut pas garder chez elle parce qu'il se saoule. Puis il bat le concierge. Il a pris l'habitude de boire avec son cousin, qui est venu comme pion de Paris. Et qui avait toujours une petite bouteille d'absinthe dans son pupitre. Le Breteau est le plus fort de la cour. Et il a eu le prix de trapèze. Il a renversé une fois le dépensier qu'il avait surpris en train de voler des pruneaux. Les maîtres d'études ont peur de lui. On ne le renvoie pas parce qu'il a sauvé le petit du maire qui se noyait un jour en promenade. Bataille. Quand il m'a vu, il m'a poussé. J'ai ri, il m'a poussé encore. Je lui ai défendu de me toucher. Il m'a répondu qu'il allait rabattre les coutures de ma tunique et m'a assommé de coups de poing. Je l'ai appelé grand lâche. Mais comme il a recommencé à me frapper, j'ai tiré mon couteau. Il a voulu me retenir le bras et s'est haché la main sur la lame. Ça ne m'a rien fait de voir son sang couler. Le maître d'études m'a empoigné par le milieu du corps et on m'a emmené au cachot. Le proviseur, qui était à déjeuner, est arrivé avec le garçon criant que j'étais un assassin. J'aurais pu tuer le Breteau. J'ai mis ma main sur la table et j'ai fendu la peau avec la lame. Le sang a coulé dans la paume qui faisait le creux. Il y en avait bien une chopine. Je l'ai épongée avec mon mouchoir en disant au proviseur Le breton n'a pas plus de mal que ça. Vous voyez qu'on n'en meurt pas. Un petit brûlot. Je suis sortie le lendemain. J'ai retrouvé le breton à l'infirmerie. Il avait les mains emmaillotées, moi aussi. Il avait chipé du vin au réfectoire. Il m'a invité à boire dans l'armoire aux médicaments. Nous avons fait un petit punch. Nous entendions la sœur qui disait « Ça sent le brûlé ». Elle est allée avertir le dépensier et nous nous sommes vite recouchés dans nos lits. Je suis content de mes coups de couteau. Le breton ne m'embêtera plus. Je monte à l'arbre. C'est moi le preux à saute-mouton. Je force le 11. À bras le corps, il n'y a que le breton qui me renverse, encore quand il peut me prendre. Je ne savais pas que j'étais fort et que je courais bien. Au bar, c'est toujours moi qui délivre. Quand nous allons en promenade, je passe les grands fossés avec élan. J'ai, l'autre jour, grimpé jusqu'en haut d'un noyer. On avait peur que je me tue. Moi, j'avais peur seulement que le breton en fît autant. J'avais la tête qui tournait, mon cœur qui battait et mes doigts qui brûlaient. Mais j'étais content d'être tout seul à avoir osé monter si haut. J'ai vu un nid et j'ai voulu le prendre. La branche a cassé et j'ai glissé en m'écorchant. Mais je me suis mise à rire. J'avais bien mal tout de même et ça m'a cuit pendant 8 jours. Comme je suis plus heureux que chez mes parents. Ils me disaient toujours que j'étais laid. On m'appelait quelquefois Tortillard. Dans la cour, on m'appelle D'Artagnan. Je n'osais pas me tenir droit, lever les yeux, crier. Je crie tout le temps de la récréation. Je joue, je cours. Je n'ai pas peur d'être battu. C'est moi qui bats les autres. Monsieur Pitel nous a donné en classe une narration. Histoire d'un mousse. J'ai été premier. Personne n'a été jaloux. En récréation, on m'a dit « Jouons, mon marin, tu seras capitaine. » On a fait un abordage. Le breton et moi, nous avons défendu le navire. Nous sommes restés maîtres. Mais je suis tombée en voulant reprendre le drapeau, un bout de bois avec du papier tricolore. Et j'ai déchiré ma culotte au genou. Parloir. Ma mère est venue à ce moment me demander, et je suis allée au parloir. En voyant la déchirure, elle a crié et a dit au maître d'études qu'elle se plaindrait au proviseur, qu'il ne devrait pas laisser les enfants jouer à s'estropier. Elle se moque de l'estropiage, mais elle est furieuse de la croc. Le pion qui est mal avec le proviseur balbutiait. Ce n'est pas la faute à ce pauvre homme. On va lui faire perdre son pain parce qu'il me laisse jouer. Je ne jouerai plus. Mais pourquoi ma mère vient-elle me voir? Ah, le petit bâtard est bien heureux. On le punit, mais personne ne le gronde. Il peut se faire mal si ça l'amuse. Oui, il est heureux. Puis, il a des semaines de 20 sous. Moi, j'ai 2 sous tous les dimanches. La première pipe, 2 sous, quand on arrive à une ferme et qu'il y vient des paysannes avec du pain bis et du lait, je dis que je n'aime pas le pain bis. Je mens. Oh, la bonne odeur! Et comme la croûte craquerait. Je fais aussi celui qui crache sur le lait. J'ai inventé ça pour ne pas faire savoir que je n'ai que mes 2 sous. Et pour qu'on ne m'en offre pas, puisque je ne pourrai rien rendre. Je dis que mon tabac me prend tout mon argent. Nous avons des pipes que nous allons fumer dans les lieux. J'y reste plus longtemps que les autres pour faire croire que je fume davantage et que j'en grille pour 10 sous. Pour dire la vérité, la tête me tourne dès que j'ai tiré 4 bouffées et j'ai mal au cœur. J'avais mangé du boudin l'autre jour. Il me semble bien que j'ai rendu tout un cochon, depuis les pieds jusqu'à la tête. Le soir, à travers les vitres de l'étude, Je vois le soleil qui se couche et je regarde les nuages qui roulent. Et quand il fait du vent, les arbres qui se penchent. Et devant, des hommes qui fuient. Jamais je n'avais eu le temps de regarder le ciel, ni d'écouter le feuillage pleurer. Quand je levais les yeux ou que j'essayais d'entendre, et que fais-tu donc, Nigo? Elle me donnait quelquefois une poussée ou une gifle en m'appelant Nigo, et j'aurais voulu même que les larmes m'auraient empêché de voir. C'est dans 2 jours la rentrée. Le père Giraud vient à l'étude du matin me demander. On m'attend dans le corridor. Ce n'est pas ma mère. C'est moi, dit la Polonie. Ton papa et ta maman sont en voyage. Je viens te chercher pour t'emmener chez nous, si tu veux venir. Elle m'embrasse et je frotte mon museau contre ses joues roses et je le plonge dans son cou blanc. Je le laisse traîner sur la gorge veinée de bleu. Toujours cette odeur de framboise. Elle me renvoie et je cours au dortoir ramasser mes hardes et changer de chemise. Je mets une cravate verte et je vole à Trucheloup sa pommade dans son sac pour sentir bon moi aussi et pour qu'elle mette sa tête sur mes cheveux. Mon paquet est fait, je suis graissée et cravatée. Mais je me trouve tout laid en me regardant dans le miroir. Et je m'ébouriffe. Je tasse ma cravate au fond de ma poche et, le col ouvert et la casquette tombante, je cours auprès de la Polonie. Elle m'a embrassée sur le front et le cou. Ça me chatouillait. Je ne lui disais pas. En route. Le garçon d'écurie a donné une tape sur la croupe du cheval. Un cheval jaune avec des touffes de poils près du sabot. C'est celui de ma tante Marion qu'on selle quand il y a trop de beurre à porter ou des fromages bleus à vendre. La bête va l'amble, ta 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 ta, toute roide. On dirait que son cou va se casser et sa crinière couleur de mousse roule en flots troublés sur ses gros yeux qui ressemblent à des cœurs de mouton. La tante ou la cousine monte dessus comme des hommes. Les mollets de ma tante sont maigres comme des fuseaux noirs. Ceux de ma cousine paraissent gras et doux dans les bas de laine blanche. Plus d'une fois, quand elle montait, au moment où elle attrapait d'une main la crinière et de l'autre le dos de la selle, j'ai vu sa jarretière, une jarretière bleue que son prétendu lui a achetée au rainage. Je le trouve laid, son prétendu. Il a des taches de rousseur sur la figure et des anneaux d'or aux oreilles, puis un gros bouton de cuivre qui tient le pont de sa culotte. Mais on dit qu'il a du bien, le fils Florimond, et que s'il prend en mariage la Polonie, ils pourront affermer un beau domaine. Si j'étais grand, je demanderais la Polonie en mariage, et quand elle serait ma femme, je ne la laisserai embrasser par personne. Eh donc, oh, oh! C'est Jean qui tire et fait virer le cheval. Il a eu son picotin d'avoine et il hennit en retroussant les lèvres et montrant ses dents jaunes. Le voilà sellé. Passez-moi, Ernestou. La Polonie, qui est parvenue à abaisser sur ses genoux sa jupe de futaine, et s'est installée à pleine chair sur le cuir luisant de la selle, m'aide à m'asseoir sur la croupe. J'y suis. Mais on s'aperçoit que j'ai oublié mes habits, roulés dans un torchon sur la table d'auberge, pleine de ronds de vin cernés par les mouches. On les apporte. Jean, attachez-les. Mon petit Ernestou, passe tes bras autour de ma taille et serre-moi bien. En croupe. Le pauvre cheval va l'amble. Il a le tricotement sec et les os durs. Mais je m'aperçois à ce moment que ce que dit la fable qu'on nous fait réciter est vrai. Dieu fait bien ce qu'il fait. Entre la croupe du cheval et la mienne, je sens le doigt de la Providence. Je bénis la main de ma mère. Elle m'a, en me fouettant, tannait la peau comme un caleçon d'équitation. La Polonie me dit « Serre-moi plus fort » et je la serre. Sous son fichu, peint avec de petites fleurs comme des hannetons d'or, je sens la tiédeur de sa peau. Je presse le doux de sa chair. Il me semble que cette chair se raffermit sous mes doigts qui s'appuient, et tout à l'heure, quand elle m'a regardé en tournant la tête, les lèvres ouvertes et le cou engorgé, le sang m'est monté au crâne, a grillé mes cheveux. J'ai un peu desserré les bras dans la rue Saint-Jean. C'est par là que passent les bestiaux et nous allions au pas. J'étais tout fière. Je me figurais qu'on me regardait et je faisais celui qui s'est monté. Je me retournais sur la croupe en m'appuyant du plat de la main. Je donnais des coups de talon dans les cuisses et je disais « comme un maquignon. Oh, la bonne odeur de fumier! Il y a aussi une odeur de temps. Puis on sent le lait. Derrière les vaches qui rentrent, j'ouvre à pleine narine dans le faubourg. Nous avons traversé le faubourg, passé le dernier bourrelier. Quelle belle boutique avec les harnais, les grelots, les houppes bleues, les plumets rouges et les brides neuves et fraîches, couleur de seigle cuit. Ils vendent aussi des cravaches avec une tête de chien et des fouets longs et fins comme des épis d'avoine. Oh, ma cousine, nous sommes à Expailly. Plus de maisons, excepté dans les champs quelques-unes, avec des bonnets de tuiles rouges et des chignons de lierre vert, des fleurs qui grimpent contre les murs comme des boutons de rose le long d'une robe blanche. Un coteau de vigne et la rivière au bas, qui s'étire comme un serpent sous les arbres et qui écume dans le courant autour des pierres, bordée d'une bande de sable jaune, fin comme de la crème et piquée de cailloux qui flambent comme des diamants. Là-bas, des dos de montagne, on dirait des rhinocéros ou des éléphants accroupis et dormants. Ils coupent de leur échine noire, verdie par le poil des sapins, le bleu du ciel, où les nuages traînent en flocons de soie. Un oiseau, quelque aigle sans doute, avait donné un coup d'aile. Il pendait dans l'air comme un boulet au bout du fil. Je me rappellerai toujours ces bois sombres, la rivière frissonnante, l'air doux et le grand aigle. J'avais oublié que j'étais à cheval, le cœur battant contre le dos de la Polonie. Elle-même, ma cousine, semblait ne penser à rien. Je ne me souviens avoir entendu que le pas du cheval et le beuglement d'une vache. Adieu. Ma mère est venue me rechercher à Soul au bout de 8 jours. Oh, ces 8 jours, je ne veux pas en parler, le compter à personne, même à mon papier blanc. Si je suis malheureux quand je serai grand, je fermerai les yeux et je regarderai passer ces 8 jours-là. Adieu, cousine. Fruor Fueris. Les affaires de la maison vont bien. J'entends dire de mon père dans le quartier, quand je descends, il ne se les ferait pas couper pour 6 000 francs par an. J'ai demandé au professeur, qui m'a pris en amitié, et m'explique les tropes que je ne comprends pas, ce que signifiait cette locution « se les faire couper ». Il m'a répondu qu'il devait attendre pour me l'expliquer que j'eusse atteint la puberté. Pubertas pubertatis. Mais il m'a dit que cela pouvait se traduire ainsi. Votre père jouit d'une honnête aisance. Il a ajouté « jouit dans le sens de fruor, point dans un autre, mon enfant. Fruor, fueris. Vous savez quelle conjugaison ? Monsieur, c'est indéponnant. » Le gigot. Je profite de la fortune de la maison. Ma mère, quand il y a un poulet, me donne les pattes et me laisse sucer la ficelle, la ficelle qui retenait le cou sous l'aile et les lardons sur les flancs. La ficelle. J'ai calomnié ma mère quand j'ai cru qu'elle ne m'aimait pas. Pardon, ma mère. Mais si je suis heureux avec la volaille, je souffre beaucoup avec la viande de boucherie, surtout quand on achète un gigot. Le premier jour passe, mais le soir du second jour, ma mère me dit « Ernest, comme tu as été bien sage cette semaine, nous te donnons le gigot à finir. Je sais que tu l'aimes. » J'ai élevé une fois des doutes. Elle m'a fixée et elle a dit d'une voix sévère « Ta mère en a donc menti ?» J'ai pris d'une main résignée le manche fatal. Et les étrangers croient que je l'aime. Si j'ai plus tard un ennemi, je sais bien quel supplice je lui infligerai. Je lui donnerai des ficelles de poulet à voir, des gigots à finir, ficelles de tantale, gigots de Prométhée. Et je serai cruellement vengée. Lepsomaï. Mes études suivent leur cours. Mes succès sont grands. Je connais déjà l'histoire de Lucrèce et je sais le futur de Lepsomaï. Lorsque j'en parle à mes cousines le dimanche, elles disent que Lepsomaï doit être une maladie et me demandent tout bas si je sais ce que c'est que Tarquin a fait à Lucrèce. J'en ai parlé au professeur qui m'a répondu « Fave lingua, claudite iam rivos », a-t-il repris. Et comme je revenais à la charge, il a dit « Sat prata biberunt ». Je n'avais plus qu'à me retirer. J'en ai fait part à mes cousines qui se sont mises à rire et qui ont l'air plus instruites que moi. Je sais pourtant encore bien des choses. Titiretu palulae recubanchu o mutos deloyeoti. Il n'est pas possible que je n'aie pas une belle position dans le monde avec de pareilles connaissances. Polu flos boyo. J'ai fait un pas dans la vie. La robe prétexte tient à peine par son agrafe à mon épaule. Je comprends tout ce que veut dire polu floshoyo. Le professeur est venu en prévenir ma mère. C'est une date, madame, c'est une date. Quand un enfant sait ce que polu floshoyo signifie, il comprend bien tout ce qu'il y a d'harmonie et de profondeur, de clair, et si l'on veut aussi de ténébreux dans ce mot, où tient tout le génie d'Homère. Cet enfant en est aux colonnes d'Hercule de la grammaire, oui, madame, aux colonnes d'Hercule. Et ce n'est pas seulement un écolier qui connaît sa route, c'est une âme qui parle, c'est un cœur qui s'éveille. Quelle profession peut-on bien embrasser quand on sait ce que poilu fosboyo veut dire, a demandé ma mère, n'y tenant plus. Toutes, sur les deux joues, a riposté avec un sourire fin le professeur. On l'a invité à dîner. Il y a eu un peu de solennité. Ma mère m'a traité comme un grand garçon. Quand elle a distribué le poulet, j'ai eu un moment d'émotion profonde. Elle a laissé la cuisse au bout de la patte. Au dessert, on m'a fait réciter une fable d'Ésope. Personne n'y a rien compris. Tous les voisins étaient jaloux. Ma mère se penchait amoureusement vers mon père. La nuit, j'ai entendu dans la chambre à coucher qu'on en parlait encore. Polu flox goyo. Ernest est sauvé. Oui, on peut lui donner un frère. J'en crève. Ma mère ne me bat plus. J'ai les os trop durs et elle s'est fait mal la dernière fois qu'elle m'a cogné. C'est mon père qui me flanque des coups de canne. Il s'ennuie dans la ville, cet homme. Il a demandé son changement et ne reçoit pas de nouvelles. Quand il a compté sur le facteur et que le facteur n'apporte rien, Il m'administre une volée et est d'une humeur charmante toute la journée. Dans la ville, il a la réputation d'être rigolo. On le trouve espiègle. Il me rosse chaque fois qu'on me met à la porte de la classe. Delaran m'y fait mettre tous les jours, cet animal de Delaran. Il me regarde en faisant des grimaces, tire la langue, tord son nez et fait l'idiot, le paralytique. Contrefait le père Javenat, le professeur d'anglais. Je me tords, j'en crève, j'en pète. On me chasse. Il paraît que quand on pète de rire, c'est mauvais signe. On me dit chaque fois que ça m'arrive que je mourrai sur l'échafaud. Dois-je le dire? J'ai plusieurs fois mérité la mort. Celui de Vendôme. Hier, mon père a été plus espiègle que d'ordinaire. Il avait des bottes neuves et il les a assouplies sur mes reins. Ce n'est plus de Laran, c'est un nouveau qui m'avait fait rire, un de Vendôme. Le matin, déjà, on lui avait demandé sa leçon. Il s'était levé, avait regardé le professeur. Votre leçon. Silence de l'élève. Votre leçon. Le Vendômois restait muet. Le professeur insistait et lui redemandant s'il ne la savait pas. Non, je veux être épicier. À la classe du soir, on lui redemande sa leçon. Il s'enlève. Ses lèvres ont bougé et deux mots, les mêmes, y sont venus mourir. Être épicier. Mon fou rire m'a pris. Plus je me tenais les flancs et plus il se soulevait. Le professeur m'a remis à la porte par les oreilles, confié au père Giraud, qui m'a conduit au proviseur, lequel a renvoyé droit à mon père qui attendait le facteur. Quelle roulée! Distribution des prix. Je quitte le collège aujourd'hui. Dans quelques minutes, la distribution de prix. Les filles du proviseur viennent de passer dans la cour en grande toilette. Les pions se sont mis sur leurs 31. Quelques mères d'élèves traversent les corridors, revenant de chez l'économe. Au bas de l'escalier, des grands, chargés de placer les dames, commencent leur service. Et le surveillant général nous envoie dans notre coin où nous faisons du bruit. Un chut que nous écoutons mieux que nous ne l'avons fait jamais. On va se quitter. Échapper à la discipline, redevenir soi. Il n'y a plus ni maître ni élève. Il y a dans les cœurs à cette heure la joie du départ pour les uns, la mélancolie de l'inconnu pour les autres. Embrassade. La distribution commence. Tous les singes sont sur l'estrade. On lit les prix. Je suis couronné trois fois et embrassé par l'archevêque. Ils sont bons. Le maire empoisonne le vin. Le soir. Ma mère et mon père m'appellent le soir dans le salon. Ernest, voici le moment de songer à une carrière. Nous nous sommes saignés, tu sais, aux quatre veines pour te faire donner de l'éducation. J'ai eu envie de les interrompre et de leur dire qu'on n'a pas payé un sou pour moi pendant mes 10 ans de collège, que c'était la ville qui soldait ma pension quand j'étais interne, et que je leur ai épargné un domestique quand j'étais externe. Mais ma mère a l'air si émue et mon père si grave. Ernest, tu ne réponds rien? J'ai demandé à mes parents jusqu'au lendemain pour interroger la vocation. Je passe la nuit en méditation. Et je ne trouve rien. Je m'aperçois que dans tous les livres qu'on m'a fait lire, réciter, traduire, il n'a jamais été question de payer son terme, ni d'acquitter la note du boulanger. On ne m'a pas appris le prix du beurre, combien coûte un bas morceau pour le pot-au-feu. M'a-t-on indiqué comment se gagne l'argent qui paye le garni, le coche et fait bouillir la marmite? Je ne sais rien, rien. Je me trompe. Je sais ce que c'est qu'une catachrèse et une synécdoche. Je sais comment on scande des vers et ce qu'on appelle un anapeste ou un trochée. Je sais encore si c'est sur la pénultième ou l'antépénultième qu'il faut en grec. Il faut en grec placer le baryton ou le périspomène. Question grave. Il est 5 heures. Le soleil se lève. À 9 heures, il faut rendre réponse à ma mère. Quelle est à prendre? Aveugle comme Homère ou Œdipe? Mais je n'ai pas de caniche, ni même un accordéon. Conspirateur comme Épaminondas? Il faut être deux au moins pour conspirer. Où est l'autre? D'ailleurs, on mange même quand on conspire, et avant d'être pris, on a le temps de crever 10 fois de faim. Héros. Mais les héros de l'Antiquité se promenaient coiffés d'un casque et vêtus d'une feuille de vigne. Notre époque bégueule exige de ces héros des feuilles de vigne plus larges et qu'on ne cueille pas dans les champs. Héros dit tueur d'hommes? Les tueurs d'hommes, on les envoie à Bicêtre ou à la guillotine. Si je veux tuer, je n'ai qu'à me faire soldat. Je n'ai appris qu'à être mendiant, domestique ou assassin. Que disaient-ils donc pourtant dans leur distribution de prix? Que la vie de collège était l'image de la vraie vie et que tel qui remportait des palmes comme écolier remportait des triomphes dans le monde, patati patata. Imbécile que j'étais! Je ne remarquais pas que celui qui nous parlait ainsi avait eu justement tous les prix dans son temps et qu'il n'en était pas moins resté gueux. Sa femme portait en hiver des robes d'indienne et toute l'année un petit châle noir croisé sur ses seins maigres. Les enfants étaient vêtus de pièces et de morceaux. Leur tournure à tous puait la misère et criait la faim. On m'a menti 10 ans et je ne vois plus comment gagner mon pain. Je n'ai su que dire à ma mère quand elle m'a demandé ce que j'avais à proposer. C'était bien la peine de te faire donner de l'éducation. Ma mère, je ne vous en demandais pas et je voulais être savetier. La vie est terrible à la maison. On me reproche le pain que je mange. J'ai demandé à mon père son consentement pour m'engager ou m'embarquer, pour être soldat ou matelot. Il a refusé, me menaçant de me faire arrêter par les gendarmes. J'ai cherché des leçons, je n'en ai pas trouvé. J'ai cru 2 ou 3 fois tenir une place de pion dans une pension, un jour de précepteur dans une famille. Mais ma mère a eu connaissance de mes démarches et est allée voir les gens. Monsieur, je vous remercie bien du service que vous nous rendez en prenant notre fils. Ernest n'a pas mauvais cœur, mais il est feignant, entêté, gourmand et libertin. Quand j'arrivais dans la maison, on me faisait chasser par les domestiques. Le soir, lorsque j'apprenais à ma mère l'insuccès de la démarche, il a fallu que tu fusses bien bête après la visite que j'avais faite et où j'avais tout préparé. Je souriais. Mon père disait, malheureux, tu insultes les êtres qui t'ont donné le jour. Il ne fallait pas me le dire. L'autre jour au déjeuner, la scène a été violente. On a voulu me faire finir encore un gigot. Et comme je soupirais, mon père a pris le gigot par le manche et l'a brandi sur ma tête. Le jus me tombait dans les cheveux. Je lui ai arraché le gigot qu'il a défendu avec énergie et je l'ai jeté par la fenêtre. Va le rejoindre, a crié mon père. Je suis allée rejoindre le gigot en fermant derrière moi la porte, après avoir eu un moment envie de passer par la fenêtre. Mais le soir même, je suis revenue. Je me promenais au bas de la maison devant une boîte de décrotteurs. Quand j'ai vu mon père entrer, j'ai poussé la sellette à ses pieds. Cirez vos bottes, mon père, cirez vos bottes. Il s'est jeté, tête baissée, dans la maison et m'a envoyé un moment après ma mère en parlementaire. Il a été décidé que je partirai demain pour Paris. Paris? Quoi? Je serai à Paris demain? Qu'y ferai-je? J'ai examiné tous les métiers que je ne pouvais entreprendre, aveugle, héros, tribun. Il en reste un. Je vais me faire poète. En seconde, un jour qu'on m'avait mis au cachot, j'ai rimaillé contre le censeur des vers que le professeur a trouvés jolis. J'ai traduit en strophe une fois l'amour mouillé d'Anacréon. Enfin, n'ai-je pas dans un coin l'élégie que m'inspira la mort de Casimir de la Vigne? Te voilà mort, Casimir. Ici-bas, il faut mourir. Mais de toi l'on pourra dire. Il employait bien sa lyre, de nos braves grenadiers, il chanta les vers lauriers. Et quand ils tombèrent du faîte, il célébra leur défaite. Oui, il célébra leur défaite. Suis-je poète? Je me le demande. Poète ou non, je descends sur Paris. Ma mère m'a serré dans ses bras en me recommandant bien de rester honnête et de retrousser toujours mon pantalon quand il pleuvrait. Elle a tiré son mouchoir pour essuyer une larme. « Bon, » a-t-elle dit, tremblante d'émotion, « il n'est pas marqué. » Mon père m'a tendu la main, froide comme celle d'un serpent. La cloche du bateau sonne, embarquée. Un tour de roue, au large. Paris, Paris, nous sommes venus en diligence. La grosse diligence, avec sa robe jaune et son capuchon noir, qu'emportaient au galop sur les routes de France les chevaux qui fumaient dans les brumes du soir. Paris. Personne ne relève la tête pour nous voir passer. Les femmes ne se mettent pas aux fenêtres, malgré les coups de fouet du postillon et les coups de trompe du conducteur. Tarara, tata, rara, rara. C'était un événement chez nous quand la diligence arrivait. Les enfants l'annonçaient de loin, couraient le long des roues. Les ménagères sortaient sur le pas des portes, qui tressaillaient au soulèvement sourd des pavés. Et il y avait des vieux qui, tous les soirs, venaient attendre la voiture. Quand un des septuagénaires manquait, c'est qu'il était mort ou allait mourir, et les autres préparaient leurs habits d'enterrement. On se connaissait tous à Vendôme. Les bourgeois se promenaient par petits tas le long des trottoirs et sur la place, on causait les jambes écartées, les mains au fond des poches devant les boutiques et on se faisait décrotter ensemble par Bibi, le commissionnaire, devant la porte du café du commerce. Il n'y avait que les jeunes qui couraient. Ici, je les vois tous qui se heurtent et vont vite, les vieux, les jeunes, les têtes blanches et les têtes blondes, les gros ventrus comme les grands secs, ceux en redingote et ceux en blouse. On dirait qu'il n'y en a pas un seul de retiré et qu'il y ait des rentes, qu'ils ont tous besoin de gagner leur vie. J'en ai vu passer un en habit noir et en cheveux longs qui mangeait une saucisse dans un petit pain. Il avait l'air d'avoir bien faim. La troupe se tait. La voiture s'arrête. Nous sommes dans la cour des messageries. Je peigne dans mes doigts fiévreux mes cheveux emmêlés. J'étire mes jambes comme un évadé qui regarderait par la fente d'un mur et chercherait sa route. C'est le premier pas que je fais sur ce sol qui s'entr'ouvre pour livrer les faibles. Je vais fouler ce pavé de Paris. Il me prend presque envie de n'y pas poser les pieds et de m'enfermer dans la voiture. J'irai attendre dans le hangar qu'on rattelle et elle me ramènera au pays. Il me semble que je respire une sorte de danger. Allons donc. Pose le pied, dresse la tête. J'ai levé mon front dans l'air humide, le chapeau à la main, tête découverte, œil tendre, comme si je saluais un ennemi. Il soufflait un vent aigre et un soleil louche se reflétait dans des flaques de pluie. Des nuages gris couraient dans le ciel sale. Qui sait? Si le ciel eût été gris-bleu cet après-midi et le vent tiède, ma vie aurait été moins glacée et moins noire. J'en eus le cœur serré et il resta crispé 15 ans.